Radio Okapi.
Je suis le Moussa Pondé pour les journaux.
Tonnes de cuivre et de cobalt saisies par la police des mines dans le Haut-Katanga. Ces minerais ont été retrouvés dans un entrepôt sur l'axe Lubumbashi-Likasi. Situation alarmante pour les victimes de l'incendie de 20 villages de la collectivité de Ndo en territoire de Djougou. Les chefs des entités sinistrées sollicitent l'intervention du gouvernement et des humanitaires. L'invité de la rédaction est Fabrice Loussindé, directeur général adjoint de la SNEL. Il va nous parler du déroulement des travaux de réhabilitation du poste Unilou de la SNEL à Lubumbashi. Bonjour à tous. La police des mines et des hydrocarbures de Lubumbashi a saisi mardi plus de 35 000 tonnes de minerais de cuivre et de cobalt retrouvés dans un entrepôt situé à une vingtaine de kilomètres de Lubumbashi sur l'axe Lubumbashi-Likasi. Selon l'officier de la police judiciaire qui instruit les dossiers, ces minerais auraient été volés dans la mine de Lusuishi située sur le même axe par un groupe de ressortissants chinois qui opérait clandestinement avec des négociations aussi en congolais. Le point avec Colin Djuma Moussompo.
Selon un officier de la police des mines, c'est plus de 850 gros camions de 35 tonnes qui transportaient chaque nuit ces minerais pour les déposer dans cette ancienne usine de minerais abandonnée il y a plusieurs années, soit plus de 35 000 tonnes de cuivre et cobalt. Toujours, selon la police, ces minerais proviendraient de deux carrières situées sur la route Lubumbashi-Likasi au niveau du village Kawama, à une dizaine de kilomètres de Lubumbashi, à savoir Lusuishi et Lukuni, appartenant à l'entreprise minière Congo Dongfang Mining, CEDEM en sigle. Sur réquisition du parquet général et après une plainte déposée par cette entreprise minière sur le vol à répétition de ces minerais par des exploitants chinois en complicité avec certains négociants congolais, il a été décidé que la police fasse une descente sur le lieu. Une équipe composée de la police de mines, les agents de CEDEM ainsi que le parquet qui s'y sont rendus ont retrouvé sur place un jeune homme qui faisait la garde de l'entrepôt. Après un interrogatoire auprès de l'OPJ, ce jeune homme a expliqué que l'entrepôt dont il est question appartiendrait à un groupe de ressortissants chinois qui se serait échappé dans la brousse quelques minutes avant l'arrivée des éléments de la police. Les deux officiers qui menaient l'opération ont exigé que l'entrepôt soit scellé. Lubumbashi, Colin Djuma Moussompo, Radio Okapi.
Au Kasaï central, alors que la population attend le redémarrage de travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende, une autorité traditionnelle de la contrée fustige le vol de divers biens sur place. Le chef Zachary Chifamba Tchakosa du territoire de Benalkaloubi déplore même la libération des auteurs de ce vol par l'officier de la police de Bukonde après avoir perçu une importante somme d'argent. Il appelle les autorités de la police à arrêter cet officier militaire. Chef Zachary Chipamba Tchakosa au micro d'André Kambala.
Ça fait une semaine, on a volé beaucoup de matériel chez moi, au site Katendi. Tout est mal, des clés mécaniques, les interrupteurs, les câbles électriques, les vitres, plus les démarreurs des véhicules. Les gens sont venus de Kananga vers Bunkonde, un ingénieur de la place, bien connu, qui a amené son fils là-bas. Les militaires nous ont aidés qu'on puisse arrêter ces gens-là. Le même jour, on a arrêté les gens. Moi-même, j'étais sur place, 6 personnes, sur 4 motos, et tous les biens étaient saisis par les militaires qui érigent leurs barrières de contrôle. À Kalonga, nous avons pris ces gens-là et tous les biens. Nous avons mis à la disposition de la police chez le capitaine Djambilay. Le capitaine les a entendus sur PV, comme c'est un OPJ. Nous étions là-bas avec le missionnaire, le gens de la NER. Nous avons voulu que ces gens soient amenés ici à Kanan. Quand nous sommes partis de là, le capitaine a reçu 2 millions de francs de la part de cet ingénieur-là et il les a libérés. La population s'est agitée. Nous ne voulons pas la présence de ces capitaines. Avec l'impunité, vraiment, on peut tout détourner au chute capitaine.
En réaction, le capitaine incriminé assure que tous les biens saisis sont bel et bien consignés dans son bureau de travail. Pour sa part, le commissaire provincial de la police dit vouloir d'abord s'imprégner de ce dossier avant de se prononcer. En bref, le président de la République, Félix Tshisekedi, est attendu ce jeudi à Brazzaville. Mais bien avant cela, il a rencontré hier le président Uhuru Kenyatta du Kenya. Les deux présidents s'engagent à œuvrer ensemble pour la réconciliation nationale en République démocratique du Congo. Comme en Angola, la coopération entre la RDC et le Kenya était aussi au menu de la première visite des État que le président Félix Tshisekedi a effectué hier dans ce pays. Franck Tshimonga.
Nous allons continuer à vous aider à atteindre la paix et la stabilité parce que nous avons une expérience similaire à la vôtre que nous pouvons vous faire partager. Cette promesse est du président Uhuru Kenyatta faite à son homologue Félix Tshisekedi. Se confiant à son hôte, le numéro 1 Kenya lui a révélé avoir tiré les leçons de la crise politique née de la contestation de sa réélection en 2017 par l'opposant Raila Odinga. Une crise qui avait coûté la vie à 90 personnes. Le Kenya veut aussi faire profiter à la RDC son expérience en matière de règlement de conflits, partant du rapprochement intervenu depuis entre l'opposant Odinga et le président Kenyatta. Signalons qu'avant de rencontrer son homologue Kenyatta à Nairobi, le président Tshisekedi a échangé avec l'opposant Raila Odinga. Le chef de l'État kenyan a aussi marqué la disponibilité de son pays à former les fonctionnaires congolais ainsi qu'à mettre en place des partenaires en matière de construction, d'infrastructures et dans l'industrie minière. Rappelons que le président Tshisekedi a entamé mardi en Angola sa première tournée à l'étranger. En tant que chef de l'État après le Kenya, il doit se rendre au Congo-Brazzaville.
Dans le domaine de la justice, la Cour de cassation se met au pas des instructions reçues du chef de l'État sur l'administration de la justice en RDC. Tous les magistrats du siège de l'ordre judiciaire et des greffiers ont été interpellés hier mercredi sur le respect des heures, des audiences, les délais des prononcés et les condamnations aux dommages et intérêts qualifiés d'astronomiques. Dans une communication faite au chef des juridictions de son ressort, Jérôme Kitoko a rappelé ses administrés à l'ordre. Selon lui, les contrevenants s'exposeront à la rigueur de la loi. Le premier président de la Cour de cassation est au micro de Jeff Ngoy.
Le notre règlement intérieur qui régit les cours, tribunaux et parquets et dicte que les audiences doivent commencer à 9h et se terminent après l'épuisement des rôles. On ne va pas tolérer des déficiences en cette matière. Et les chefs de juridiction, ainsi instruits, vont prendre les responsabilités pour déclencher des poursuites disciplinaires à l'égard de tous les contrevenants. Et je suis aussi revenu sur le respect des délais de prononcé. Un autre point aussi important, c'est les condamnations, on a qualifié ça d'astronomique. À ce sujet, j'ai rappelé à la troupe que la procédure de prise à partie est toujours en vigueur et on pourra tirer toutes les conséquences si jamais les dols venaient d'être démontrés. Et si cela est avéré, on tirera toutes les conséquences en rapport avec cette procédure. Je viens de déclencher l'inspection à travers toute la République pour que le magistrat de la Cour de cassation puisse veiller à ces instructions-là.
Dans le même chapitre, le syndicat autonome des magistrats Sinamag demande au nouveau régime d'éviter d'instrumentaliser la magistrature et l'immixtion des politiques dans le pouvoir judiciaire. Selon Edmond Issofa, président du Sinamag, ce n'est que de cette façon qu'on peut arriver à instaurer l'autorité de l'État voulue par le nouveau président de la République. Il s'exprimait ainsi mardi à Kinshasa au cours d'un point de presse. Edmond Issofa, au micro de Paul Matendo.
Si nous devons arriver à mettre en place un état de droit, cela est profitable à tout notre peuple. Et nous estimons que pour que cela se fasse, il faudrait pour les autorités du pays éviter à tout prix l'instrumentalisation de la justice, éviter à tout prix l'immixtion des politiques dans la gestion des carrières de magistrats. Et nous avons également estimé que cela ne peut se concevoir qu'avec une bonne rémunération, puisque une bonne rémunération est un élément essentiel de l'indépendance du pouvoir judiciaire. En contrepartie, le syndicat autonome des magistrats s'est dit que dorénavant, il faudrait que les magistrats, en ce qui les concerne également, revoient leur façon d'agir. Il faudrait que désormais, que nous soyons les premiers à combattre l'impunité, à combattre la corruption, puisque ce sont là, entre autres, les maux qui sont reprochés aux magistrats.
Je le disais en titre, en Ituri, la situation humanitaire est alarmante dans la collectivité de Ndo en territoire de Djougou après l'incendie de 20 villages il y a environ 3 semaines par leurs voisins des Walendupiti. Environ 4000 habitants victimes de l'incendie vivent dans des conditions déplorables. Pas d'abri ni des vivres. Des centaines d'élèves dans les écoles ont été pillés ou incendiés n'étudient pas. Les chefs des entités sinistrées lancent une alerte au gouvernement et aux humanitaires pour venir en aide aux victimes. Des précisions sur place avec Isaac Raymond.
Plus de 1500 maisons ont été incendiées et tous les biens calcinés dans ces villages situés dans les groupements Ngapa et Uketa dans les collectivités de Ndo en territoire de Djougou. Ce drame a provoqué le déplacement de toute la population, affirment les chefs de ces entités. Selon ces derniers, ces déplacés sont dépourvus de tout dans leur milieu de refuge, notamment à Pandroma, dans les Walendupiti et dans d'autres localités de la collectivité de Ndo. Ils manquent d'abris, de nourriture, de nattes et de couvertures. Leurs enfants, dont les fournitures scolaires et les uniformes ont été brûlés dans des maisons, n'ont plus d'espoir d'étudier cette année. Suite à ces conditions difficiles, certains déplacés estimés à environ 200 personnes ont résolu de regagner leur village où ils ont abandonné leur champ. Cependant, ils passent la nuit à la belle étoile et sont exposés aux intempéries. Les chefs des groupements Ngapa et Uketa demandent au gouvernement et aux humanitaires de fournir d'urgence des tentes, des vivres et des non-vivres à ces personnes pour améliorer leurs conditions de vie. De Fataki, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'invité. Notre invité de ce midi est Fabrice Lucindé, directeur général adjoint de la SNEL. Il nous parle de travaux de réhabilitation du poste Unilou de la SNEL à Lubumbashi qui s'exécute depuis quelques jours à la tête d'une forte délégation venue de Kinshasa et supervise ces travaux. D'après lui, la finalité est d'améliorer la desserte en énergie électrique sur les cités universitaires et dans certains quartiers de Lubumbashi. Le coût des travaux est estimé entre 400 000 et 500 000 dollars américains. Ils sont traités avec Paul Munanga.
Monsieur le directeur général adjoint de la SNEL, Fabrice Lucindé Walusangi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Pouvez-vous nous dire en quoi consistent ces travaux ?
Depuis une semaine, nous avons été instruits par notre directeur général, monsieur Jean Bosco Kayombo, de conduire une équipe multidisciplinaire ici à Lubumbashi pour résoudre les problèmes qui sont survenus notamment au poste Unilou et qui ont entraîné des interruptions et quelques désagréments au niveau de l'alimentation des quartiers avoisinants du site universitaire de l'Unilou. Le coût des travaux aujourd'hui est estimé essentiellement au poste de l'Unilou à environ 400 à 500 000 dollars. L'idée étant de finaliser le remplacement des cellules de protection haute tension, moyenne tension, mais aussi de faire des travaux, c'est-à-dire de tirer deux lignes qui vont aller renforcer le réseau existant d'alimentation des cabines qui desservent le site universitaire. De façon très simple, ici à l'Unilou, nous recevons du courant du répartiteur sud, c'est-à-dire nous recevons 50 000 volts. Il y a un transformateur qui abaisse la tension à 15 000 volts et on a ce qu'on appelle des cellules, ce sont simplement des armoires métalliques qui contiennent des équipements électriques, un disjoncteur, un interrupteur, des jeux de barres. Et en fait, ce sont des mécanismes de protection qui permettent en réalité de protéger les sources et de protéger le réseau quand il y a un court-circuit.
Et ces cellules, nous apprenons que ça date de plusieurs années.
C'est-à-dire, les cellules ont une durée de vie moyenne de 30 ans. Celles qui étaient installées au niveau du poste de l'Unilou ont atteint les 30 ans d'âge et nous avions déjà programmé d'installer de nouvelles cellules, de les remplacer. Et nous avons eu l'occasion tout à l'heure ensemble de visiter. Et donc c'est ce qui était prévu comme travaux dans les prochaines semaines. L'incident qui est survenu nous a simplement permis d'aller un peu plus vite dans la programmation de ces travaux.
Quels sont les quartiers de Lubumbashi qui sont concernés par ces travaux ?
Alors, il y a bien sûr le site universitaire. Il y a Gambela 1, Gambela 2, Kamatete, Sera, Monastère, Joli Site, Kasapa et la prison, etc.
Et cela va du coup mettre fin au système de délestage qui est pratiqué par la SNEL.
Bon, le système de délestage ne sera pas nécessairement interrompu. Il va y avoir une amélioration certainement de la desserte électrique. Mais compte tenu de la croissance urbaine, c'est-à-dire de l'augmentation très rapide de la population dans ces quartiers-là, il y a un temps d'adaptation. C'est-à-dire ce que la SNEL a prévu en réalité pour réduire ou pour mettre fin au délestage à Lubumbashi, c'est la mise en service du nouveau répartiteur de Kassapa, qui est près du pont quand on vient de l'aéroport vers la ville.
Fallait-il attendre que les étudiants se soulèvent pour que la SNEL pense exécuter les travaux de grandes envergures afin d'améliorer la desserte en énergie électrique sur les cités universitaires? Et pourtant, vous le savez très bien que les réseaux étaient défectueux depuis longtemps.
La politique de la SNEL est focalisée sur les sites stratégiques, le site universitaire, les hôpitaux, les centres de production de la régie des eaux, les camps militaires, les aéroports sont des sites stratégiques prioritaires. Dans le cas d'espèce ici, on ne va pas dire que nous avons attendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux programmés pour renforcer les réseaux de distribution sont en place depuis un certain temps. Et ici, dans le cas d'espèce, nous avons simplement précipité le démarrage de ces travaux.
Et dites-nous, quelle est la situation générale de la desserte en énergie électrique en général dans le Grand Katanga?
Dans le Grand Katanga, de façon générale, nous desservons à peu près l'équivalent de 840 MW par jour. Il y a une partie qui vient de Inga, qui vient au niveau du poste de la station de conversion de Kolwezi. Ça représente à peu près 420-430 MW. Il y a la partie de la production du réseau sud ici, c'est-à-dire les centrales de Nzilo, Mwadingusha, Koni et Nseke, qui représentent à peu près 232 MW. Je rajouterai les centrales de Bendera et de Kiloubi, qui ne sont pas interconnectées, mais qui produisent également de l'électricité pour Kalemie et la ville de Kamina ainsi que la base. L'alimentation est correcte. Le seul problème que nous avons aujourd'hui qui est devenu vraiment une plaie pour la SNEL, c'est le vol récurrent des conducteurs. Chaque jour, nous subissons des vols de conducteurs et ça met à mal tout le fonctionnement de la SNEL. Et c'est vraiment des actes inciviques que nous déplorons et ça déstabilise le réseau, ça pose des problèmes de l'alimentation.
Monsieur le DGA Fabrice Lucinde Walusangi, je vous remercie.
Merci, monsieur le journaliste.
Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.